La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine au Festival mondial des arts nègres de 1966, un événement initié par Alioune Diop et porté par le président poète Léopold Sédar Senghor, où la musique a joué un rôle central. L'espace d'un printemps, Dakar s'est transformé en une immense scène ouverte, expression de la créativité des artistes noirs, mais aussi affirmation d'une société nouvelle au diapason des indépendances africaines.
J'avais 17 ans. Et je n'étais pas à Dakar, j'étais à l'intérieur du pays, dans ma ville natale, qui est Kaolack. Mais, comme nous l'avons dit souvent, le festival était tellement populaire que je crois que de tout le Sénégal montaient les chansons qui étaient dédiées au festival.
Sur la pointe des Almadi, à Dakar, le passionné de jazz Magaï Kassé, professeur émérite de l'université Charanta Diop, interroge la puissance fédératrice de la chanson jouée par Bira Gueye et interprétée par Mada Thiam.
Des voix extraordinaires, comme celle de Mada Thiam, qui était une cantatrice parmi les plus doués de sa génération, avec une voix de, non pas de ténor, mais plutôt de soprano. Et donc, la radio-télévision aidant, et la radio-télévision étant partout, on entendait partout au journal parler, parce que c'était ça à l'époque, avant qu'on ne donne les informations à Wolof, il y avait toujours des spots qui parlaient du festival. Ce festival est arrivé à nos oreilles par la musique, sans qu'on ait eu une idée claire de ce qu'était le festival.
Revivre le premier Festival mondial des arts nègres, se souvenir de cet événement phare du continent africain, mais aussi interroger sa mémoire et son actualité, c'est dans cet esprit que s'est déroulé en novembre dernier le colloque international organisé par la section sénégalaise de la communauté africaine de culture, la digne héritière du mouvement de la négritude et de présence africaine, la maison d'édition créée par Alioune Diop. Dakar 66, un printemps musical, c'est un nouvel épisode documentaire de la marche du monde sur RFI.
Ce qui est nouveau avec le festival, c'est que loin dans le Sénégal rural, c'était par moyen de la radio qu'ils ont suivi, qu'ils ont été introduits à plusieurs musiques et ils ont vraiment pris le goût pour la culture à ce niveau.
Jeanne Passler est musicologue à l'université de San Diego en Californie. Elle mène une recherche sur l'usage de la radio post-coloniale.
Donc le rôle nouveau est vraiment important, je crois. C'est une expansion dans les masses. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en février de cette même année, 66, Senghor avait signé un décret pour l'utilisation de la radio pour l'éducation et dans l'éducation.
À l'époque, combien de Sénégalais disposent d'un poste de radio?
Justement, en 60, il y avait 125 000 postes de radio au Sénégal. Et en 67, c'est-à-dire l'année après le festival, 260 000, donc plus que le double.
Jeanne Passler, est-ce que les choix musicaux du président Léopold Sédar Senghor pour ce premier Festival des Arts Nègres ont une vocation particulière?
Oui, je pense que tout le festival et la musique y inclus ont servi un rôle diplomatique pour Senghor. Senghor voulait concevoir l'indépendance un petit peu par moyen de la culture, mais aussi son perspective diplomatique voulait dire qu'il faut faire venir les musiciens des pays avec qui il voulait faire des alliances. Donc il y avait beaucoup les États-Unis, parce que c'était le moment de la guerre froide, c'était le moment de la guerre d'agression au Vietnam. Donc cette collaboration avec le festival était très importante pour les Américains. Il y avait aussi bien sûr la France en priorité, Malraux était là. les Brésiliens et tout le reste. Mais il y avait aussi une coopération avec des pays africains. Ça, c'était une entente entre Côte d'Ivoire, Haute-Volta, Bénin et ces pays-là. Mais cette utilisation de la culture pour faire les alliances était bien avant cette période, c'est-à-dire les ballets de Sénégal jouaient aussi un rôle de diplomatie dans toute l'Europe, pour l'Afrique et Sénégal en particulier.
Nous sommes revenus vraiment à Sorano, où a eu lieu effectivement les premiers spectacles du premier Festival mondial des arts nègres.
Salioum Baye, le président du comité scientifique du colloque.
On a voulu nous montrer la diversité dans l'unité. Ce Sénégal est, je crois, un pays où il y a une coexistence pacifique entre tous les peuples qui l'habitent. On n'a pas beaucoup vu les Wolofs, mais on a vu les Sérères, on a vu les Peul, on a vu les Toucouleurs, et je pense que c'était déjà une bonne palette du peuple sénégalais. Et ce qui a été remarquable, c'est que dans cette diversité, on sentait bien l'unicité du peuple sénégalais qui s'exprimait à travers la danse et le chant.
Ibrahima Ouane, est-ce qu'il y a un avant et un après Dakar 66 en ce qui concerne la musique?
Je pense qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après Dakar. Ne serait-ce qu'en jetant un coup d'œil un peu sur l'évolution de la musique sénégalaise. Également, d'ailleurs, parallèlement à cette évolution, l'évolution des institutions politiques sénégalaises, notamment la prise en charge de la culture au plan étatique. Donc, de ce point de vue-là, 1966 a été sans conteste un tournant.
En ce qui concerne les groupes de musique eux-mêmes, qu'est-ce qui change après Dakar 66?
Jusqu'au début des années 60, les groupes musicaux étaient essentiellement, on peut dire, extravertis quelque part, puisqu'ils reprenaient pour l'essentiel des succès ou des classiques internationaux, qu'on appelait soit la musique typique ou le copyright, pour dire tout simplement des morceaux connus, bon, des morceaux qu'on copie. Mais typique, ça faisait le plus souvent référence à la musique afro-cubaine. Donc, des orchestres comme Aragon et d'autres, même quand les groupes s'appelaient Star Jazz, Harlem Jazz, Tropical Jazz, en réalité, la dominante dans le répertoire, c'était des morceaux afro-cubains.
Il y a une tendance qui dominait, c'est la musique afro-cubaine. Mais pour les gens évolués, en contact avec les étudiants de Dakar qui nous ramenaient des disques, on avait tendance à avoir des disques des musiciens français. Il faut dire que la grande majorité des jeunes de cette époque-là étaient beaucoup plus branchés sur la musique française. Les Johnny Hallyday, les Sheila, etc. dont les photos et les posters ornaient nos chambres.
Vous étiez fan de qui?
Ah, j'étais fan de Johnny. J'étais fan de Enrico Macias. J'étais fan de Sheila et de Claude François, de Antoine. C'était ça nos idoles. On avait salué les copains qui venaient ici. Donc, le contexte musical était un contexte extrêmement disparate. On ne pouvait pas dire. Comme on avait tendance à avoir des disques aussi de musiciens de jazz et surtout de rhythm and blues. On les appelait comme ça, les rhythm and blues. Les Otis Redding, les James Brown, les Wilson Pickett. C'est-à-dire que le terrain était un terrain qui était favorable et réceptif à toutes les formes musicales, y compris la musique congolaise, n'est-ce pas? Et la musique guinéenne aussi, malgré les différences qu'il y avait entre Senghor et Sékou Touré. Le Bembeya Jazz, pour le nommer, avait un succès énorme ici. Surtout son disque fétiche, Regard sur le passé, qui valorisait les hauts faits d'armes de Samori Touré.
Quand il y a mari, pas d'agent, fantébé, dis-nous. L'air que vous entendez est une composition en l'honneur de l'empereur du Wassoulou, l'Almami Samori Touré, dont la lutte anticolonialiste a donné naissance aux plus belles chansons de geste d'Afrique.
Tandara fa moriba fa manje kumala.
Déjà un peu avant 66, il y a une tendance qui commence, puisqu'on est dans les premières années des indépendances.
Ibrahim Awan, de l'université Cheikh Anta Diop.
Un peu l'introduction des langues africaines dans le répertoire, donc dans les chansons. On commence à mettre des paroles en langue, le plus souvent en Wolof. Mais 66 accélère un peu ce processus. Non seulement les langues entrent plus en force, mais la musique commence à s'ancrer davantage dans le patrimoine sénégalais, disons ouest-africain. L'auteur émerge, ça devient une figure centrale qui communique avec sa population. Quand le texte commence à devenir Wolof, Peul, Manding, c'est pas seulement une voix, c'est une parole.
Est-ce que c'est le cas, cette émergence de la figure du chanteur et donc de la vedette hein, aussi, du porte-voix, du porte-parole, avec les chansons qui, dans la mémoire collective, sont restées un peu comme les chansons fétiches, les chansons hymnes du festival?
Oui, c'est en cela que le festival a été un déclic très important, puisque le fait que Dakar avait à accueillir le monde obligeait les créateurs conscients à se remettre à l'écoute de leur patrimoine pour proposer quelque chose qui pouvait être qualifié de sénégalais ou de s'africain. Donc, par exemple, Biragay, qui vient du groupe Harlem Jazz, qui crée un autre groupe, Galeyabe, qui est déjà un nom sénégalais, qui renvoie aux soirées, aux veilles culturelles africaines, introduit dans son orchestre une chanteuse qui vient de troupes folkloriques, qui n'a jamais chanté dans un orchestre, qui ne connaît pas les notes, les gammes, etc. Elle était déjà populaire. Elle chantait dans des grandes manifestations comme les séances de lutte, etc. Elle était déjà connue comme chanteuse populaire. Ce qui était nouveau, c'est que cette chanson-là soit accompagnée par le saxo et par d'autres musiciens. Cette chanteuse s'appelle Mada Cham. C'est un peu ce duo-là qui va fonder le groupe Galeyabe et dont un des premiers morceaux sera justement un morceau dédié au festival, qui exhorte les populations à préparer le festival, à se préparer à accueillir le monde. Cette chanson dit « Rendons grâce à Dieu » puisque le festival, le moment que nous attendions est arrivé. Le Sénégal va accueillir le festival dans la paix, dans l'allégresse, dans l'unité. Elle rend ensuite hommage au président Senghor qui est considéré comme l'hôte de ce festival, qui est le président de la République du Sénégal. Et vers la fin, il rend également hommage dans une sorte d'improvisation au chef d'orchestre qui est le compositeur de cette chanson, Biragay.
Une effervescence créative impulsée aussi par des propositions qui viennent du plus haut sommet de l'État, hein, puisque ce sont les propositions du président Léopold Sédar Senghor. On voit bien une sorte de dynamique avec des expériences musicales nouvelles. Vous l'avez dit, on parle en langue, on met en avant sa culture noire, on est en pleine négritude musicale. Est-ce que c'est une définition qui vous conviendrait, Ibrahim Awan?
Ça dépend, puisqu'il y a des chanteurs qui explicitement utilisent le mot dans leur chansons, dans leur vocabulaire. Négritude, vive la négritude, chantons la négritude, etc. Il y a quelques chanteurs qui explicitement se réfèrent à cela. D'autres le font de manière plus subtile, ou en tout cas d'une manière plus libre, plus distanciée. Mais l'indépendance musicale, entre guillemets, l'affirmation à travers la musique, était une préoccupation qui traversait à la limite tous les secteurs de la société, jusque dans l'opposition politique à Senghor. À un moment, même les voisins étaient devenus des exemples. Ceux qui étaient parvenus un peu à s'émanciper, entre guillemets, comme la Guinée, les Zaïre, devenaient aussi des exemples pour le Sénégal.
Alors, est-ce qu'on peut avoir des exemples, justement, de groupes qui réussissent cette synthèse, cette nouvelle synthèse, impulsée peut-être par le festival ?
Les nouveaux groupes qui arrivent dans l'espace se positionnent déjà par leur nom. On sort des noms à consonance jazzy pour aller vers des noms sénégalais. Voilà, qui sonnent donc sénégalais, africains, et qui sonnent même complètement comme des manifestes. Donc, l'exemple de Wato Sita, donc en mandingue, dire l'heure a sonné, il est temps, donc le réveil en quelque sorte. Un groupe comme Kadior Rythme. Kadior, c'est une région, c'est un royaume du Sénégal précolonial. Donc, le rythme du Kadior. Donc, et c'est le nom, c'est retour au Kadior, au nom originel, donc pour dire rythme du terroir en fait. Djamono, Wolof qui dit temps, le temps, l'époque. Donc, une façon de se réapproprier son être, et tout en étant dans le présent. Donc, être de son temps, ce n'est pas antinomique avec être soi-même. Ensuite, donc, les instruments, certains introduisent des instruments africains, le balafon, la kora, les tambours cohabitent avec des instruments électriques, comme la guitare et autres. Les costumes changent. Avant, c'était le smoking. Il y a une sorte de subversion. Ça fait des chanteurs qui arrivent avec des boubous ou alors des musiciens qui s'habillent avec des tenues de leur terroir. Donc tout cela voilà, montre qu'il y a une autre vision. On peut faire de la musique avec nos langues, avec des instruments de chez nous, avec un nom qui parle à notre peuple, avec des messages qui s'adressent en priorité à notre public.
Jeanne Passler, est-ce que vous pourriez dire que la musique, telle que Senghor la pense dans le développement du Sénégal, contribue à créer une identité nationale ?
Oui, et c'est une expression un peu occidentale, cette notion. Mais Senghor était très Troisième République. Et alors, une chose qu'il a fait qui est assez remarquable, c'est qu'il a donné des congés à tous les fonctionnaires payés pour qu'ils puissent jouer, entrer, participer. Et ce qui est extrêmement intéressant que j'ai trouvé dans la presse, c'est que tous les jours, dans une dizaine de parcs publics, il y avait des ensembles de danse, de musique, de toutes sortes de choses du pays entier, c'est-à-dire de Casamance, de Cap-Vert, de Ciné-Saloum. C'est un peu l'équivalent des harmonies françaises. C'est-à-dire, il y a des harmonies, des fanfares partout. Et alors, ils venaient tous les jours, pour 24 jours. Et ça, c'était dans la presse. Il y avait même des photos de ça. Donc, dans les films qui ont été faits du festival, on voit ça aussi. C'est pas seulement les groupes formels avec le ministre des Affaires étrangères au théâtre de Daniel Sorano, mais c'est aussi partout, les amateurs. Aussi des chefs traditionnels et leurs musiciens. Donc, il y avait une énorme participation du pays dans le festival.
Dakar 66, un premier festival mondial des arts nègres, une grande fête artistique et populaire grâce à la radiodiffusion et au cinéma. Pas moins de 5 films documentaires ont en effet été tournés à l'époque. Américains, soviétiques, roumains, italiens, sénégalais, tous vont vouloir filmer le festival et c'est à suivre sur RFI.
La La marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite de votre épisode documentaire Dakar 66, un printemps musical, tourné en novembre dernier au Sénégal à l'occasion du colloque international consacré au premier festival mondial des arts nègres, à sa mémoire et à son actualité. C'est un événement fondateur pour les intellectuels et les artistes noirs dont le cinéma s'est largement emparé. Des équipes italiennes, américaines, soviétiques se sont croisées pendant le festival. Car ne l'oublions pas, le contexte géopolitique était celui de la guerre froide.
Le film italien commence dans la rue.
David Murphy, de l'université de Stirling, en Écosse, a répertorié 5 documentaires tournés pendant le festival.
Donc c'est le film italien sur le festival tourné par Sergio Borelli. Et il commence dans la rue, ici à Dakar, avec un groupe de jeunes qui jouent du rock'n'roll. Ils ont dû attirer la foule et ils les filment en train de jouer, de chanter dans une sorte de charabia, l'anglais, rock'n'roll. Et c'est très amusant, très vivant. Et ils passent de la rue, ici à Dakar, à l'Assemblée nationale, avec Léopold Sédar Senghor qui fait son discours. Et c'est ce mélange du panafricanisme avec majuscule, le grand événement, les organisations internationales, mais le panafricanisme de la rue, là où on fait des rencontres, où le monde noir se réunit. C'est ça qui est très intéressant avec ce morceau.
Léopold Sédar Senghor, donc le président poète, qui présente pour la première fois les arts nègres à la face du monde. C'est un événement éminemment politique, hein, et pas seulement culturel, en 1966, ici à Dakar. Et vous nous montrez une photographie noir et blanc, où l'on retrouve Senghor, mais aussi des artistes et des diplomates.
Dans les archives à Washington, à Howard University, l'université noire de la ville, j'ai retrouvé cette photo de Mercer Cook, qui était l'ambassadeur américain au Sénégal à l'époque. C'était un des premiers ambassadeurs noirs américains. L'administration Kennedy avait nommé des ambassadeurs noirs dans pas mal de pays africains pour montrer de l'amitié envers ces pays nouvellement indépendants. Dans le contexte de la guerre froide, ils voulaient montrer qu'ils étaient très ouverts envers ces nouveaux pays et que ce n'était pas du tout un pays raciste avec tout ce qu'on voyait sur les civil rights aux États-Unis. Donc il y a Mercer Cook et il y a Duke Ellington, le grand musicien de jazz qui célèbre à travers le monde depuis 30 ans. Et Duke Ellington et Mercer Cook sont amis depuis très longue date. Ils sont tous les deux de Washington. Le père de Mercer Cook, c'était un musicien de jazz, Will Marion Cook. Mercer et Duke se connaissaient à Washington quand ils étaient jeunes. Donc on a là une réunion dans cette photographie du monde noir, de la diaspora, avec le président poète Léopold Sédar Senghor, qui lui avait rencontré Mercer Cook à Paris dans les années 30, au moment où les poètes de la négritude sont rencontrés pour la première fois à Paris. Donc cette image de Duke Ellington, Mercer Cook et Léopold Sédar Senghor, c'est le monde noir qui s'est rencontré pour la première fois dans les années 30 à Paris. Et c'est le retour en Afrique de la diaspora, ici à Dakar, pour la première fois.
Thank you.
ce qui frappe ceux qui sont venus en masse écouter Duke Ellington, c'est la composition de l'orchestre.
Grâce aux images d'archives, Magaï Cassé analyse la représentation donnée au stade de Dakar par le grand orchestre de Duke Ellington.
Les vents, trompettes, saxo, batterie aussi, la rythmique et le piano de Duke Ellington. C'est quand même un compositeur. C'est pas n'importe quel compositeur, c'est un très grand virtuose du piano.
Mais à ce moment-là, pourquoi c'est un choc?
Disons que c'est un choc parce que ce n'est pas des gens qui connaissent le répertoire de Ellington qui viennent, mais c'est des gens qui viennent découvrir. Peut-être même que dans le public européen, très peu de gens ont écouté Duke Ellington. Est-ce que Senghor lui-même avait écouté Ellington? On peut se poser la question. Mais le choc, c'est lui-même est choqué positivement de venir dans l'Afrique mère dont il a sans doute rêvé avec la couleur de sa peau, le rejet dont les Noirs en général ont été l'objet aux États-Unis et qui vient dans un pays qui les accueille. Ellington vient dans un pays, le Sénégal, qui accueille l'Afrique et toute cette Afrique lui porte un témoignage qu'il n'a pas chez lui. Ce que je sais, c'est que jusqu'à ce qu'il reprenne l'avion dans le film de William Greaves jusqu'à l'aéroport, on sentait quelqu'un qui était absolument épanoui. Et les gens qui l'accompagnaient étaient très heureux également de l'accompagner, comme on le ferait d'un frère ou d'un oncle ou d'un cousin qui vient de vous rendre visite.
This is my first time in any part of Africa. Of course, I've dreamt of it so much and written so much pseudo-African music because at my distance, of course, it would have to be imitation.
Bon, c'était pour la première fois que nous sommes en Afrique, malgré le fait que j'ai beaucoup pensé de l'Afrique. Pendant 35 ans, j'écrivais la musique soi-disant pseudo-africaine, mais maintenant je suis jusqu'à la source.
Est-ce que la musique africaine d'aujourd'hui peut encore vous apprendre quelque chose?
Well, I can't if, unless I find it too sophisticated to actually capture something. It's known around the world as the most sophisticated rhythms in the world.
Personne ne peut comprendre toute la musique africaine. La musique africaine est très connue comme la musique la plus sophistiquée au monde.
La voix de Duke Ellington dans La Marche du Monde, enregistrée en 1966 au Festival des Arts Nègres à Dakar.
Madame, Monsieur, Sénégal, je vous aime à la police.
En 1966, dans le stade de Dakar au Sénégal, les improvisations du grand orchestre de Duke Ellington résonnent comme autant de victoires, en écho aux musiques, en écho aux chants qui depuis toujours ont encouragé les luttes émancipatrices des Afro-Américains.
Donc, ce jazz qui naît, ce jazz qui se développe, ce jazz qui est rejeté, qui n'est pas accepté au départ. Et pourtant, il y a cet intérêt de la jeunesse américaine pour cette forme musicale qui va se traduire non pas dans les ballrooms qui étaient en fait les lieux de prédilection des jeunes noirs, des jeunes afro-américains, mais on se rend compte que la jeunesse blanche commence à s'intéresser à cette musique. L'industrie du disque commence à s'intéresser avec des gens qui ont fui le fascisme en Europe, qui sont installés aux États-Unis et qui ont créé Blue Note. Donc il faut bien être exhaustif pour dire comment cette musique, qui est une musique de révolte, d'affirmation de soi, d'affirmation de son identité, de sa liberté de créer, et qui puise dans le tréfonds culturel américain noir, qui est le blues, le ragtime, le swing et tout ça, de dire que cette musique-là va avoir tendance à évoluer. Et Ellington arrive juste au moment où, en 66, il y a quand même l'industrie du disque qui a produit des chefs-d'œuvre, n'est-ce pas? Je n'ai pas parlé par hasard de Blue Note. Je n'ai pas parlé non plus par hasard de tout ce mouvement de danse, de chant, qui puise à la fois dans le swing, dans, disons, le blues, mais également qui va créer ses propres formes, sans pour autant délaisser la source mère.
Si Duke Ellington est l'un des premiers grands défenseurs de la culture noire aux États-Unis, les années 60 voient exploser une nouvelle génération de jeunes virtuoses dont la fougue va redynamiser la nature protestataire du jazz. Ils s'appellent Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis ou encore Thelonious Monk, mais ils ne sont pas dans la délégation américaine à Dakar.
C'est évident qu'on ne voulait pas envoyer des gens...
David Murphy.
...qui parleraient des droits civiques, du racisme aux États-Unis, des gens comme Miles Davis qui avaient été emprisonnés pour l'usage de la drogue, qui sont des gens de la rue, qui ont fait leur formation en dehors des grandes écoles classiques. Et le State Department ne veut pas qu'on parle politique. Pendant le festival, donc, la délégation afro-américaine est choisie pour ne pas créer des problèmes. Mais il y a aussi le goût du président Senghor, le goût de Mercer Cook. Ce sont des messieurs qui ont la soixantaine. Et si on organise un festival, on veut quand même écouter la musique qu'on aime.
Est-ce que cela voudrait dire que c'est un festival de vieux, d'anciens, de la vieille génération ?
C'est une critique qui est faite à l'époque. Et en partie, c'est vrai. Mais dans un festival aussi grand, avec plus de 2000 participants, il y a forcément beaucoup de musiques différentes, beaucoup d'artistes d'horizons différents, de styles différents. Ça, c'est dans le film soviétique, Rythme d'Afrique, qui commence avec des tambours, avec la musique brésilienne. Mais après, pour le générique, ça passe au calypso du grand chanteur The Mighty Terror.
Pourquoi vous avez justement choisi cette chanson-là ? Parce que le calypso, c'est plutôt enveloppant, c'est plutôt dansant. On a envie de boire un cocktail en l'écoutant. Mais si vous l'avez choisi, c'est que vous avez une raison, vous.
Vous avez raison d'évoquer ce côté du calypso, mais en même temps, il faut se méfier du côté politique qui se cache derrière cette musique aussi douce avec des rimes qui font rire. Il y a un côté très très politique là-dedans. Dakar, I do love Dakar, j'adore ce pays, c'est le pays de mon arrière-grand-père, les gens sont accueillants, très gentils, j'espère qu'ils vont vivre pour l'éternité et régner sur cette terre. Et on entend ça sur le générique, mais à la fin du film, on entend de nouveau Mighty Terror. Et cette fois-ci, c'est la même chanson, mais la deuxième partie est un côté très politique. Mighty Terror dit « If you hear your neighbor in trouble, help them to solve the battle ». Si le voisin est en difficulté, il faut venir en aide. Et si les gens continuent à être racistes, il faut les chasser du continent. Donc toutes les luttes contre le colonialisme qui sont toujours en cours à travers le continent. Il incite les gens à continuer à aider la décolonisation de l'Afrique. The land of my great grandfather.
Après le Festival mondial des arts nègres de Dakar, on peut se demander si les artistes, les musiciens ne font pas partie de celles et ceux qui résistent le mieux à ce qu'on pourrait appeler le repli identitaire ou encore le repli sur soi. 50 ans après, est-ce que ce message universel de Senghor, ce message du métissage et de la culture universelle, n'est pas devenu subversif ?
À plus que jamais, il faut rendre aussi à Sadar ce qui appartient à Sadar. Pour ne pas dire à César ce qui appartient à César.
Magaï Cassé.
C'est vrai que s'il n'y avait pas eu ces rencontres, et aussi cette faculté magnifique chez Senghor, de nous pousser à réfléchir, de nous pousser à nous poser les bonnes questions. Ne serait-ce que sous ce rapport, Senghor est méritoire de beaucoup de choses, de nous avoir permis d'avoir un accès, tout au moins une fenêtre, sur ces formes musicales d'un genre tout à fait nouveau et qui allait devenir un genre absolument planétaire. Et universaliste. Le jazz, par définition, est une musique qui remet en cause des choses qui ne vont pas pour essayer de les remettre à l'endroit. La musique de jazz vient émanciper ou accompagner la volonté d'émancipation de la jeunesse africaine, mais plus précisément sénégalaise, parce que les produits de 68, la jeunesse qui a crié sa révolte à partir des contextes ici marqués politiquement par les politiques qui sont mises en œuvre, Senghor en l'occurrence, comme les autres jeunesses du monde l'ont crié selon leurs contextes locaux, cette musique de jazz va commencer à attirer de plus en plus l'intelligentsia sénégalaise. Parce que nos références à l'époque, les Pate Diagne, Sahir Thiam, les Amédée Ali Diagne, tous ces grands, on les appelait les grands, qui ont fondé la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, tous ces gens-là écoutaient le jazz. Parce que justement, leur volonté de libérer leur pays du joug néocolonial, comme on les appelait à l'époque, rencontrait également la volonté d'émancipation des Afro-Américains. Et donc, le lien était fait. Quand j'écoute Coltrane, ou quand j'écoutais Coltrane à l'époque, un disque qui s'appelle Coulez ses mamans, mais qui était vraiment dans sa période free jazz. Mais Coulez ses mamans, c'est un cri.
En 1966, le premier festival des arts nègres est l'aboutissement d'un long combat initié dès les années 40 par Adioune Diop et la revue Présence africaine, relayée par le congrès des écrivains et artistes noirs de 1956 à Paris, et enfin mise en œuvre par Léopold Sédar Senghor. Mais au-delà de l'indépendance culturelle de la nation sénégalaise, c'est tout un art de gouverner qui s'exprime par les mots du président poète.
Je crois qu'après le festival, le peuple sénégalais s'est senti beaucoup plus uni. Il y a eu une véritable cohésion nationale. En même temps, contrairement à ce qu'on aurait pu croire au début du festival, le festival était surtout dans la rue, dans les quelques 10 à 12 troupes de ballet, n'est-ce pas, qui donnaient des spectacles gratuits sur les places publiques et au coin des rues. Ça a été une prise de conscience nationale à travers la négritude. Et en même temps, une prise de conscience de cette fraternité qui unit tous les hommes.
Senghor rêvait d'un projet d'État et un projet inter-État.
Roland Collin, ancien chef de cabinet du Premier ministre Mamadou Dia de 1960 à 1962.
À ce titre-là, progressivement, ont été débattus les grands projets, et en particulier les organisateurs du festival, Senghor en tête, et puis Alioune Diop étant aussi avec lui, tout à fait dans cette ligne-là. Il s'agissait de faire une démonstration, non pas verbale, mais concrète, de puissance de l'art nègre.
Et le but du festival, que Singer a dit dès le début, c'était de construire un art nouveau. Alors Roland Collin compare ça avec le besoin de composer ou de trouver un nouveau moyen de gouverner. Et la musique est toujours une sorte de recherche entre les gens qui sont différents, qui ont des valeurs différentes, qui ont des moyens de penser différents, et ils trouvent des similitudes, ils trouvent des résonances, ils trouvent aussi des façons de se mettre ensemble.
Cette culture de l'universel, chère à Senghor, 50 ans après, hein, le Festival des Arts Nègres, à votre sens, vous qui êtes musicologue, Jeanne Passler, ce projet musical, il a pris forme, il s'est développé, il a grandi. Est-ce qu'il fait aujourd'hui la spécificité de la musique sénégalaise, à votre sens?
Alors, on ne peut pas parler de la musique sénégalaise moderne sans parler de Youssou N'Dour. Dans ses concerts, dans ses disques, il y a toujours une collaboration avec des rappeurs américains, avec la musique occidentale et européenne, avec l'utilisation des formes technologiques nouvelles, et le guitare et tout ça, et aussi des textes mélangés, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'il représente cette... fusion, si vous voulez, qui est véritablement mondiale.
Ce qui vous intéresse, c'est ce moment de rencontre, en fait, inter-africain, interculturel, et qui produit quelque chose.
Oui, ça produit une nouvelle imagination de son, mais aussi d'être ensemble. Parce que par moyen des sons, les gens se rencontrent et ils sont ensemble d'une autre façon. Et alors là, le festival, c'était pas seulement le Sénégal et puis le jazz qu'ils connaissaient déjà, mais c'était aussi beaucoup de musique qu'ils ne connaissaient pas encore. Et ça rend possible une autre façon d'être dans le monde et de se concevoir et de concevoir l'autre.
Ibrahima Wan, pour se quitter, donc, ce morceau de Youssou N'Dour que vous avez choisi.
J'ai choisi Birima puisque c'est une composition assez évocatrice. Elle est inspirée du patrimoine, on peut dire culturel, puisque c'est une chanson qui renvoie à l'épopée. Birima, c'est un hymne à un héros du 19e siècle, donc héros Tchédo, du Kayor et du Baol, donc du pays Wolof qui est au centre du Sénégal. Donc c'est l'hymne à la bravoure, l'hymne à l'éthique Tchédo, l'hymne à la guerre aussi. Et là, on retrouve un hymne du 19e siècle qui est orchestré avec des instruments modernes, avec même des musiciens pas forcément sénégalais. Donc c'est une sorte d'adaptation qui renvoie à mémoire et actualité. C'est Jean-Philippe Riquel qui, avec le synthétiseur ici, reproduit les mélodies de Khalam, qui est l'instrument emblématique du chant épique.
Un
Ainsi s'achève cet épisode épique et musical de La Marche du Monde tournée au Sénégal, dans lequel vous avez entendu par ordre d'apparition Magaï Cassé, Jeanne Passler, Salioum Baye, Ibrahim Awan, David Murphy et Roland Collin. Tous mes remerciements à Marie-Aïda Diop et à toute l'équipe de la section sénégalaise de la communauté africaine de culture, organisatrice du formidable colloque en mémoire du premier festival des Arts Nègres de Dakar. Dakar 66, un printemps musical. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde signé Valérie Nivelon et mis en onde par Elliot Bourrel avec les archives de RFI. Rendez-vous sur la page rfi.fr de La Marche du Monde pour réécouter cette émission. Retrouvez-nous également sur Facebook, podcaster. Cette émission, c'est la vôtre.